Alors, quand vous ouvrez le journal et que vous apprenez la disparition de Bette Davis, d'Ava Gardner, n'avez-vous pas l'impression qu'une page d'histoire se tourne, une histoire que vous, vous avez vécue, l'âge d'or d'Hollywood?
Mais ça, c'est la vie.
R.
Je joue au cinéma.
T.
J'ai un fils, Michael. Il joue maintenant au cinéma.
L.
J'ai un petit-fils, Eric. Il joue au cinéma. Ça continue.
Comment t'appelles-tu, esclave?
Thomas Hugues.
Spartacus.
Sidonie Bonnec.
Je n'ai pas l'honneur de te plaire, hein?
La curiosité est un vilain défaut.
Bonsoir Bernard Benoliel.
Bonsoir.
Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes directeur de l'action culturelle à la Cinémathèque. Évidemment, c'est la disparition de Kirk Douglas qui nous a donné envie de découvrir, de raconter l'âge d'or d'Hollywood. Et on dira quelle part il y a pris, évidemment, tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, moi, la première question que je me pose, c'est l'âge d'or, c'est quand l'âge d'or d'Hollywood ?
C'est d'emblée une question compliquée parce que les historiens se disputent sur la chronologie, ouais, ou les délimitations. Disons que souvent on considère que l'âge d'or hollywoodien commence avec l'avènement du cinéma parlant, donc 1929-1930, mmh, mais ce serait sans doute restrictif de le faire commencer là, parce que c'est abandonner 20 ans de cinéma muet.
Et les débuts du cinéma
qui, mmh, sont absolument cruciaux. Donc disons plutôt le milieu des années 10, c'est-à-dire le moment où des studios commence à se constituer, ouais, sur la côte ouest, en Californie et particulièrement à Los Angeles. Des studios qui commencent à, comment dire, se constituer en société de production, mmh, pour littéralement produire des films.
Et ça va jusque, là aussi, fin
des années 50, début, mmh, des années 1960, à un moment où ces studios qui ont énormément grossi et se sont développés ou multipliés ont commencé à avoir des difficultés, mmh, en termes de fréquentation ou de recettes.
Ouais. Et cette expression, l'âge d'or d'Hollywood, qui l'invente ?
Ben là encore, je pense que c'est une expression rétrospective.
Ouais.
C'est-à-dire que quand cet âge d'or s'est terminé, on s'est rendu compte d'une certaine manière que c'en était un. Et quand le cinéma est devenu ce qu'on appelle moderne, disons dans les années 60, sous l'avènement des nouvelles vagues européennes, eh ben on a considéré que ce mode de production, qui était aussi un mode de production de forme, un mode de production spectaculaire, somptueux et en même temps cohérent, où on avait une forme d'homogénéité, eh ben ça, c'était un âge d'or. Bien évidemment, un âge d'or aussi avec le principe du star system.
Oui, alors, c'est la naissance des stars, c'est ça
Ah bah oui.
Mais alors, si on couvre 44 décennies, ouais, ou 5 décennies, on ne peut pas toutes les citer. Mais si on devait citer... faites selon votre cœur, quoi. 5 ou 6 stars, d'abord des actrices.
En tout cas, oui, c'est important presque de commencer par les acteurs et les actrices, ouais, parce que le star system a vraiment fondé Hollywood. Mmh. Et si on considère, par exemple, que les genres cinématographiques ou le happy end, par exemple, mmh, sont des inventions d'Hollywood et des choses qui le définissent dans son âge classique, eh ben le happy end ou les genres ont fini par, disons, être contrariés ou certains disparaître. Aujourd'hui, le star system existe toujours. Ouais. C'est-à-dire, ce qu'Hollywood a inventé pour se propulser, ben on peut dire qu'un film comme Scandale, aujourd'hui, repose entièrement sur le star system. Alors, pour jouer à votre jeu...
Allez.
Bon, c'est impossible.
C'est trop dur.
C'est trop dur, mais disons, je ne sais pas, Greta Garbo, Marlène Dietrich, Jean Harlow, Mae West, je ne cite que des femmes, hein,
ouais,
c'est ce que vous m'avez demandé.
Oui, mais maintenant on va demander des hommes.
Voilà, Lauren Bacall, ouais, Marilyn Monroe, des stars un peu oubliées aujourd'hui, mais qui à l'époque avaient un succès comme incroyable, comme Betty Grable ou Betty Hutton. Judy Garland, beaucoup moins oubliée.
On va faire une émission à propos de Judy Garland dans quelques jours sur RTL, parce qu'il y a un film qui d'ailleurs a été récompensé aux Oscars.
Absolument. Et Renée Zellweger qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Judy Garland. Oui.
Alors les garçons.
J'avais pas fini sur les filles, mais c'est pas grave. Les garçons, qu'est-ce que je peux vous dire? Rudolph Valentino,
ah oui,
Clark Gable, Errol Flynn, Humphrey Bogart. Mm. Alors plus après-guerre, Monty Clift, Marlon Brando, Paul Newman, James Dean. On pourrait aussi évidemment citer, Gary Cooper, Cary Grant, James Stewart, John Wayne.
Je vous demande de vous arrêter.
et Edouard Balladur aussi.
Qu'est-ce qu'il fait là,
pourquoi il arrive, Edouard Balladur, dans cette liste? C'est n'importe quoi. Bon, vous avez cité Clark Gable, autant on emporte le vent, évidemment. Alors là, on est dans la démesure d'Hollywood, c'est ce qu'on va vous raconter dans un instant. Un petit extrait, peut-être.
Capitaine Butler, c'est un tel plaisir de vous trouver ici. Je me rappelle vous avoir déjà vu chez mon mari.
Vous êtes trop gentille de vous en souvenir, Madame Wilkes.
As-tu rencontré le capitaine Butler au 12 chaînes, Scarlett?
Oui,
J'en ai l'impression.
Dans la bibliothèque, Madame Hamilton, ce fut hélas trop bref. Vous aviez brisé quelque chose.
Oui, Capitaine Butler, je me souviens de vous.
RTL. Une entrée, s'il vous plaît. C'est 75 cents.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bon, et si je suis dans le film?
Comment ça?
Eh bien, je suis dans le film.
A kiss on the hand.
I don't think Miss Marina speaks French, ma'am.
Doesn't speak French? Ridiculous. Je suis sûre que vous parlez le français mieux qu'une française. Et surtout d'une voix d'or.
La curiosité est un vilain défaut.
Oui, je sais. Oui.
Extrait de Once Upon a Time in Hollywood, le film de Tarantino qui a valu d'ailleurs à Brad Pitt l'Oscar du meilleur second rôle. Mm-hmm. Et puis Marilyn Monroe, évidemment, qui incarne cet âge d'or d'Hollywood et plein d'autres actrices. Vous nous en avez parlé, Bernard Benoliel. Je rappelle que vous êtes directeur de l'action culturelle à la Cinémathèque et que vous nous faites découvrir cet âge d'or d'Hollywood où l'on croise aussi Kirk Douglas. On va parler de quelques-uns de ces films cultes. Évidemment, il y a ce film avec Clark Gable et Vivienne Leigh. Alors, il y a toujours, on dit Lee, Leigh.
Lee.
Oui, alors, écoutez, j'ai tapé sur Google Translate. on m'a dit en
les
anglais.
Coulisses de la curiosité.
Vivienne Leigh. Bon, alors, on va dire pour Lee, c'est comme vous voulez. Alors, dès le casting de Autant en emporte le vent, on est en 1939, c'est déjà la démesure.
Ah, bah, c'est une démesure tellement démesurée qu'on peut presque considérer. Autant n'emporte le vent à la fois comme la conséquence logique du système hollywoodien et presque comme, non pas un accident industriel parce que le film a été un énorme succès, mais presque une monstruosité ou une anomalie. C'est-à-dire que le producteur David O. Selznick fait les choses en grand. Il avait une formule que je trouve géniale, il disait « Je considère qu'il me revient d'être responsable de tout ». Bon, bah, une fois qu'on a dit ça, ça laisse pas beaucoup de place aux autres. Ouais. En l'occurrence, le film a connu quelques 10 scénaristes. Il y a eu 3 réalisateurs qui se sont succédés pour en venir à bout. Le casting de Clark Gable n'a pas été le plus compliqué, puisque visiblement, ils avaient lancé un concours de fans, et donc le courrier des lecteurs a en quelque sorte désigné Clark Gable. En revanche, pour le rôle de Vivienne Leigh ou Vivienne Leigh, ça a été beaucoup plus compliqué. Et là, ça a presque pris des proportions nationales. C'est-à-dire que non seulement une vingtaine d'actrices ou de stars ont été castées, et on fait même certaines fois des essais, oui. Mais aussi c'est devenu on a cherché dans toute l'Amérique la Scarlett O'Hara, oui. Et finalement c'est encore une fois évidemment David O. Selznick qui a tout décidé, mm-hmm. Et qui a choisi Vivienne Leigh, qui était une actrice anglaise, et donc c'était aussi un choix un peu risqué, oui. Mais tout le film est délirant en termes de budget, de décor, de durée de tournage.
Oui, c'est ce que vous demandez, plusieurs mois.
C'est plusieurs mois de tournage, ne serait-ce que le fameux incendie de l'entrepôt d'Atlanta dans, mmh. Le film est tourné à 7 caméras. Il est tourné avant le début du tournage. De telle sorte c'est comme si on s'attaquait à des morceaux du film pour en venir à bout.
Ouais. Alors la démesure, c'était presque un argument d'ailleurs publicitaire pour la sortie d'Autant en emporte le vent. Et faire de la pub sur les dépassements d'un film, y a une autre anecdote à raconter qui est assez géniale. C'est arrivé 17 ans plus tôt, on est vraiment au début de l'âge d'or d'Hollywood, 1922. Le réalisateur s'appelle Eric von Stroheim. Et ce film coûte très, très, très cher. Et que décide de faire le producteur ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez raison, la démesure fait partie de la fascination qu'exerce Hollywood sur les spectateurs et sur la population. Hollywood fascine à la fois parce que c'est un conte de fées permanent et en même temps parce que c'est supposé être un lieu de débauche et de perdition. Dans le cas que vous citez, évidemment, le dépassement devient un argument publicitaire. Eric von Stroheim, réalisateur absolument génial, lui aussi dément et démesuré, tourne à la Universal un film qui s'appelle Folie de femme. Mmh. Et la production, donc Karl Lemleux, le producteur, voyant que le budget est dépassé, et ne cesse d'être dépassé, en fait un argument publicitaire. Et ils font installer, le studio fait installer sur un toit de Broadway, un panneau lumineux, un bandeau défilant, qui affiche toutes les semaines le budget du film. Et il est dit, le studio et Eric von Stroheim vont vous divertir avec Folie de femme, mm-hmm. Et aujourd'hui le film coûte, et ils affichaient X milliers de dollars. Et chaque semaine le prix grimpait, jusqu'à ce que finalement le studio affiche un montant de plus de 1 million de dollars, mmh. Ce qui est, d'après Stroheim, exagéré.
Kirk Douglas vient de mourir à l'âge de 103 ans. On va vous raconter ce qu'il a représenté dans cet âge d'or d'Hollywood. Il a tourné dans dans l'un des péplums les plus mythiques, Spartacus.
Esclaves vous étiez, esclaves vous demeurerez. Mais nous avons écarté le châtiment terrible de la crucifixion à la seule condition que vous nous aidiez à identifier le corps ou la personne vivante de l'esclave Spartacus. Je suis Spartacus.
C'est moi, Spartacus.
Kirk Douglas, l'un des personnages quand même essentiels de cet âge d'or d'Hollywood. On va notamment vous raconter le rôle qu'il a joué en plein maccartisme, c'est-à-dire la chasse aux sorcières communistes qui a impacté et ô combien Hollywood et Los Angeles.
À tout de suite, les curieux sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Je voudrais que tu comprennes, mais cela... Je crois à la gloire passée de mon peuple et j'ai foi en son avenir.
Quel avenir ? Vous êtes un peuple conquis.
Sur RTL.
Vous pouvez occuper notre terre. Vous pouvez martyriser notre peuple. Mais quoi que vous puissiez faire, nous nous relèverons un jour.
Oh, tu te nourris de songes morts, tu vis encore dans les croyances d'autrefois.
Sidonie Bonnec, Thomas Huck.
Rome étrangle mon peuple, ma patrie, l'univers entier. Mais cela finira.
Charlton Heston dans Ben-Hur, évidemment. On est à la fin de l'âge d'or d'Hollywood, puisque c'est 1959, et cet âge d'or, c'est Bernard Benoliel, le directeur de l'action culturelle à la Cinémathèque, qui nous le raconte. Vous avez dit tout à l'heure, même si les historiens ne sont pas tous d'accord entre eux, on va le faire démarrer au milieu des années 1910, et ça se termine à la fin des années 50. Et on va maintenant parler du rôle de Kirk Douglas, qui a été lui aussi un acteur de péplum. Le péplum, c'est un des genres phares d'Hollywood ?
Oui, bien sûr, ça a été un des genres importants à Hollywood, ne serait-ce que, par exemple, l'épisode babylonien dans Naissance d'une nation de Griffith. Donc là, on est dans les années 10, mais le péplum a connu plusieurs vagues à Hollywood, et en particulier dans les années 50, il y a un regain d'intérêt à partir de Covadis, un film de Mervyn LeRoy qui se tourne entre les États-Unis et Cinecittà. Et c'est le moment aussi où Rome devient en quelque sorte la succursale de Hollywood, oui, et presque une capitale du cinéma dans un système de coproduction. Et après, il y a effectivement une vague de péplum, c'est-à-dire de films qui soit traitent de sujets bibliques, les 10 commandements de Cécile B. 2000, soit traitent de l'antiquité, disons, égyptienne, romaine ou grecque, et se nourrissent en quelque sorte du spectaculaire historique de ces époques-là, pour là aussi... investir et avoir des décors, des costumes, des maquillages somptueux.
Et dans cette vague-là, il y a évidemment Spartacus avec Kirk Douglas. Quel Spartacus il incarne ? À quoi il ressemble ? Qu'est-ce qu'il incarne comme type d'acteur à Hollywood ?
Dans Spartacus, il incarne l'acteur, je dirais, qu'il a toujours été. C'est-à-dire que Kirk Douglas, c'est quelqu'un qui apparaît dans l'après-guerre et qui est, comment dire, qui dégage d'emblée une extraordinaire puissance physique. Il n'y a qu'à voir dans les films comment il occupe l'espace, comment il danse, comment il chante. Enfin, comme tous les acteurs américains, il sait monter et descendre de cheval comme personne.
Il y a de la sensualité aussi.
Mais c'est plus que de la sensualité, il y a de la sexualité.
Ouais, c'est pas le beau gosse lumineux, il est un peu sombre.
Il peut être sombre, mais surtout il a quelque chose presque de carnassier. Il y a quelque chose chez lui de la bête humaine. Enfin, il y a quelque chose chez lui de puissant. Et même quand il a joué dans des rôles plus ambigus ou plus faibles, en particulier Une vie de Vincent Van Gogh par Minnelli, John Wayne lui a parlé pour lui dire, tu sais, ça c'est pas des rôles pour nous, il faut qu'on joue des rôles beaucoup plus, sous-entendu, masculins que un Van Gogh qui a l'air d'avoir de grosses difficultés.
Oui, et c'est vrai
qu'il a perdu une oreille,
ce qui n'est pas pratique. Voilà. Surtout si on fait de la radio. Mais ça n'a rien à voir avec le thème de notre émission. Ce Kirk Douglas, moi, je voudrais qu'on raconte un épisode qui nous relie à la chasse aux sorcières. Il faut peut-être dire à Bernard Benoliel en quelques mots ce que c'est et ce que ça provoque, la chasse aux sorcières, le maccartisme à Hollywood.
Le maccartisme à Hollywood, c'est la peur du communisme dans l'après-guerre. C'est-à-dire qu'on est à partir de 1947 non plus dans la Seconde Guerre mondiale, mais dans la guerre froide, donc dans l'opposition des blocs entre États-Unis et URSS, et l'URSS fait peur parce qu'elle s'est dotée de l'arme atomique et parce que l'Amérique développe une paranoïa selon laquelle le gouvernement américain et ses grands corps d'État seraient infiltrés par des espions ou des agents communistes. Donc se déploie ce qu'on appelle dans l'administration, et ça va concerner le cinéma et en particulier Hollywood, c'est censé être un foyer rouge, ça va être ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières.
Donc il y a des listes qui circulent, c'est
et
ça?
Et alors en 1947, effectivement, il y a à Hollywood ce qu'on a appelé la liste des 10, les 10 d'Hollywood, parce que ce sont 10 scénaristes, producteurs ou acteurs qui sont convoqués devant la commission des activités anti-américaines et à qui on pose la question: avez-vous été ou êtes-vous encore membre du Parti communiste américain?
Et parmi eux, il y a Donald Trumbo. Lui, il a été, c'est un scénariste, grand scénariste américain. Il a été interdit, il ne pouvait plus travailler. Et Kirk Douglas arrive dans l'histoire. Pour quelle raison?
Oui, ben, pour la raison de Spartacus. Parce qu'effectivement, Kirk Douglas, qu'on a décrit comme cet acteur puissant, investi, était tellement investi qu'il avait créé une société de production qui s'appelait la Bryna Production. Et où il faisait des films très courageux. Par exemple, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick. Et puis, par exemple, Spartacus. Spartacus, où en tant que producteur, il débarque le premier réalisateur Anthony Mann et demande à Stanley Kubrick de venir faire le film. Et en tant que producteur, il demande à Donald Trumbo, qui à ce moment-là ne peut pas travailler officiellement pour Hollywood ou à Hollywood, il doit travailler sous ce qu'on appelait des prête-noms. Doit travailler sous un prête-nom. Il lui demande de travailler au scénario du film et il exigera et il obtiendra que son vrai nom apparaisse au générique et sur les affiches.
Merci beaucoup Bernard Benoliel. Il faut citer, puisque vous venez nous parler, nous éclairer comme ça, moi je suis toujours bluffé par autant de connaissances. Et donc je rappelle que vous êtes le directeur de l'action culturelle à la Cinémathèque à Paris, où il y a une expo de Funès qui va ouvrir ses portes. 1er avril, c'est ça?
Tout à fait.
On parle de monstre sacré, c'est pas mal non plus dans le genre.
Ouais, ben vous êtes passé de Kirk Douglas à Louis de Funès. D'accord.
Qu'est-ce qu'on pourra voir en quelques mots?
En quelques mots, ce qu'on pourra voir, c'est beaucoup de... Enfin, à la fois le de Funès d'avant le de Funès que tout le monde connaît, parce que c'est quand même un homme qui a mis du temps à devenir la célébrité qu'il a été. Il y a quelques 180 second rôles dans lesquels il s'est épuisé à devenir célèbre. Et puis, bien sûr, il y a la période dite des 30 Glorieuses, où avec Gérard Houry, il fait les films que tout le monde connaît. Ce qu'on verra dans cette exposition, c'est beaucoup d'extraits qui montreront son talent de danseur, d'acrobate et de lanceur d'onomatopées. Et puis, on y verra aussi, ça je vous laisse la surprise, on y verra des objets cultes et il y aura même une salle de danse.
Ah, génial. Du 1er avril au 2 août à la Cinémathèque à Paris, exposition de Funès. Merci beaucoup.
À bientôt.
Bernard Benoliel.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.